VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, très content de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce vendredi 27 février 2015. Au programme ce matin, en République démocratique du Congo, l'armée gagne du terrain et reprend des villages aux rebelles des FDLR.
En Côte d'Ivoire, le PDCI s'apprête à entériner la candidature d'Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle, mais le choix ne fait pas l'unanimité.
L'appel de Daoumo ne nous agrée pas comme il n'agrée pas la majorité des militants de notre parti. C'est un appel qui ressemble quelque part à un diktat.
Au Nigeria, nouveaux attentats meurtriers dans le nord-est du pays alors que le président Jonathan s'est rendu à Baga.
Ici aux États-Unis, un ressortissant saoudien reconnu coupable dans les attentats de 1998 contre des ambassades américaines en Afrique de l'Est.
Et dans la partie magazine, plein feu sur la mobilisation des Camerounais contre Boko Haram.
Si nous vivons dans un pays qui est déstructuré, nous ne pouvons même plus exercer notre travail. Il y a des zones à l'extrême nord où le journaliste ne peut plus s'y rendre que protégé par l'armée. Donc il est du ressort du journaliste de travailler à ce qu'il y ait la paix.
Et comme chaque matin, vous rendez-vous avec l'économie et les sports.
En République démocratique du Congo, l'armée a récupéré plusieurs villages aux mains des rebelles hutu-rwandais, des FDLR. De leur côté, les Nations Unies ont fait part de contacts avec le gouvernement de Kinshasa en vue de renouer leur soutien aux opérations contre ces insurgés. L'ONU exigeait la mise à l'écart de deux officiers congolais accusés de graves crimes et chargés du commandement de l'opération de l'armée congolaise. Eddie Isango.
Dans les groupes de villages reconquis lors de l'offensive contre les rebelles hutu-rwandais, il y a Moulengue, très connu à cause du nom lié à l'ethnie Tutsi du Congo. Des officiers de l'armée congolaise ont révélé à l'AFP qu'il n'y avait plus de combattants FDLR dans ces villages, mais que les combats se poursuivaient plutôt dans les grandes forêts où les éléments FDLR se sont retranchés, notamment à Kitavu, Kabengere. Pendant ce temps, les Nations Unies font un revirement. Les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU chargé des opérations dans l'est de la RDC, Abdallah Wafi, a annoncé que les Nations Unies étaient en contact avec les autorités congolaises pour créer les conditions d'une reprise d'un dialogue politique et éventuellement demander au président Joseph Kabila de revenir sur sa position. Le président Kabila avait, en réaction aux conditions onusiennes, renoncé à tout soutien des casques bleus. La MONUSCO estime à 1400 les nombres de combattants FDLR encore actifs en RDC.
Nous restons en RDC pour vous parler du retour progressif des réseaux sociaux sur Internet à Kinshasa, et ce plus d'un mois après la décision du gouvernement d'empêcher les utilisateurs d'y accéder à la suite des protestations contre la réforme de la loi électorale. Nicolas Pinot.
Les autorités congolaises avaient en effet bloqué les SMS et Internet pendant plusieurs jours après les manifestations violentes entre le 19 et le 22 janvier. Le bilan de ces marches contre la modification de la loi électorale est toujours inconnu. Il serait de 27 à 42 morts selon les différentes sources. Pour la plus grande joie des Congolais, Facebook et autres réseaux sociaux refonctionnent presque normalement depuis quelques jours. L'Internet fixe lui est revenu après deux jours de coupure seulement. Le 7 février, ce sont les SMS, moyen le moins cher pour communiquer, qui ont été rétablis. Et le lendemain, l'Internet mobile avait repris. Le 20 février, Twitter était accessible via certains opérateurs, mais pas Facebook ni YouTube, qui restent très perturbés. Pour contourner la coupure, des internautes, surtout accros à Facebook, avaient toutefois trouvé des astuces pour masquer le numéro d'identification de leur ordinateur et se connecter ainsi librement.
Au Nigeria, visite surprise hier du président Goodluck Jonathan à Baga, ville décimée en janvier dernier par le groupe islamiste Boko Haram et reprise samedi par l'armée. Un déplacement effectué à un mois des élections, alors que le pays continue à être secoué par des attentats en série. Dans la ville de Biou, dans l'état de Borno, au moins 18 personnes ont été tuées par un kamikaze qui s'est fait exploser dans une gare routière. À Jos, dans le centre du pays, au moins 17 personnes sont mortes dans deux explosions survenues aussi dans une gare routière, rapporte l'AFP.
Hommage appuyé hier de la présidente du Liberia aux Américains pour leur aide contre l'épidémie d'Ebola, le jour où prenait fin leur mission militaire dans le pays. Ellen Johnson Sirleaf est en déplacement à Washington. L'Amérique a répondu : vous ne vous êtes pas détourné du Liberia. a-t-elle dit au sénateur américain, exprimant sa profonde gratitude ainsi que celle de la Guinée, du Sierra Leone, les trois pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique. La présidente libérienne sera reçue ce vendredi par Barack Obama à la Maison Blanche, rapporte l'AFP.
Le président du Soudan, Omar el-Béchir, a promis de ne pas plier, mais de résister à ce qu'il appelle l'acharnement de la Cour pénale internationale. Dans une interview publiée dans le journal Le Monde, il a dénoncé ce qu'il qualifie de mensonges et d'accusations fabriquées de toutes pièces contre sa personne. On sait que la CPI l'a inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, en proie à une guerre qui a fait plus de 300 000 morts en une décennie.
Le Fonds monétaire international va accorder au Ghana une facilité de crédit de près $1 milliard sur 3 ans en contrepartie de réformes économiques. L'AFP rapporte qu'un accord préliminaire a été annoncé. Le Ghana avait en septembre sollicité l'aide du FMI pour stabiliser sa monnaie et diminuer son déficit budgétaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le nord de l'Irak, les djihadistes du groupe État islamique ont détruit des trésors pré-islamiques. Ils ont réduit en miettes des statues, des frises et autres trésors, notamment dans le musée de Mossoul, selon l'AFP. Des experts ont comparé ces destructions à la démolition des Bouddhas de Bamiyan par les talibans en Afghanistan en 2001. En Syrie, le groupe a été la cible de frappes de la coalition dans le nord-est du pays, où ses combattants ont enlevé plus de 220 chrétiens assyriens. Nous reviendrons sur ces kidnappings dans la partie magazine tout à l'heure.
Aux États-Unis, un ressortissant saoudien accusé d'avoir été un des premiers leaders d'Al-Qaïda a été reconnu coupable à New York hier. L'homme était impliqué dans les attentats à la bombe de 1998 contre des ambassades américaines en Afrique de l'Est. Claire Morin-Gibourg.
Khalid Al-Fawaz, qui est âgé de 52 ans, a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation de complot par un jury. Al-Fawaz n'était pas accusé d'avoir aidé à planifier ces attentats d'août 98 qui avaient fait 224 morts au Kenya et en Tanzanie. Le ministère public lui reprochait surtout d'avoir, en prélude à ces attaques, disséminé les déclarations de guerre d'Osama Ben Laden auprès des médias à Londres. Auparavant, il opérait un camp d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan et une cellule terroriste au Kenya. La défense a soutenu que le prévenu n'était qu'un dissident pacifique qui partageait les objectifs de Ben Laden sur les réformes en Arabie Saoudite, mais ne le suivait pas dans ses appels à la violence. Al-Fawaz avait été arrêté à Londres en 1998 et extradé en 2002. Il devait être jugé en même temps que son complice, Abu Anas al-Libi, mais ce dernier est décédé le mois dernier après une longue maladie. Khalid Al-Fawaz risque la prison à vie.
La crise ukrainienne, le gouvernement de Kiev a entamé le retrait des armes lourdes du front dans l'est de l'Ukraine, où la situation semblait s'améliorer d'après l'AFP. Cela survient au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce vendredi une réunion d'urgence sur le conflit. C'est la première session du Conseil sur l'Ukraine depuis l'accord de paix de Minsk. Pendant ce temps, le patron des services de renseignement américains s'est dit favorable à la livraison d'armes défensives à Kiev pour combattre l'insurrection indépendantiste soutenue par Moscou. James Clapper a cependant lancé une mise en garde lors de sa déposition hier au Sénat, chez Rubin Dorcil.
En effet, a déclaré le directeur national des renseignements devant la commission des forces armées du Sénat, même s'il est difficile de prédire les actions du président Vladimir Poutine, une décision de Washington d'armer les Ukrainiens pourrait amener Moscou à fournir plus d'armes sophistiquées aux séparatistes. À mon avis, les services de renseignement croient que la livraison d'armes létales à l'Ukraine provoquerait une réaction négative de la part de M. Poutine et des Russes, a dit M. Clapper. Cependant, d'un point de vue personnel, a-t-il ajouté, il serait favorable à la livraison d'armes défensives aux forces de Kiev. L'influent sénateur John McCain et d'autres législateurs américains insistent pour que l'administration Obama arme l'Ukraine, alors que le soutien de Moscou aux rebelles séparatistes paraît de plus en plus évident.
Et pour clore le cahier international, le régulateur américain des télécoms, le FCC, a adopté hier une nouvelle réglementation controversée visant à empêcher l'émergence d'un Internet à deux vitesses. Les règles interdisent notamment aux fournisseurs d'accès à Internet de ralentir ou bloquer certains contenus ou services en ligne légaux ou encore d'accorder une connexion plus rapide à certains d'entre eux moyennant finances. Le régulateur tente ainsi de garantir la neutralité d'Internet Internet, un principe qui fait polémique aux États-Unis comme dans d'autres pays et qui repose sur un accès identique à la toile pour tous. Un survol maintenant de l'actualité économique en Afrique et ailleurs dans le monde. C'est la Minute Éco que nous présente Jean-Roger Bion.
Au Ghana, le président John Dramani Mahama a promis hier d'agir contre les coupures d'électricité qui plombent l'économie du pays. Ce discours intervient une semaine après une manifestation qui avait réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues d'Accra à l'appel de l'opposition contre les coupures récurrentes d'électricité. En guise de réponse, rapporte l'AFP, les centrales hydroélectriques et à gaz devraient être améliorées, tandis que les foyers et les entreprises seront incités à faire des économies d'énergie. Au Soudan du Sud, la production de pétrole a contaminé des nappes phréatiques. Le constat ressort d'une étude publiée ce jeudi à Juba par l'ONG allemande Sign of Hope. La zone concernée se situe dans la partie marécageuse du Nil Blanc, rendant inconsommable l'eau bue par plus de 180 000 personnes. L'ONG Signe d'espoir a effectué, d'après l'AFP, des prélèvements et mené des recherches depuis 6 ans en coopération avec l'entreprise African Water, installée en Allemagne et au Soudan du Sud et spécialisée dans la recherche de la fourniture d'eau potable dans ce pays. Aux États-Unis, l'inflation sur un an a glissé en territoire négatif pour la première fois depuis plus de 5 ans à cause de l'effondrement des prix de l'énergie. Mais cette baisse des prix ne devrait pas durer longtemps selon les analystes. La plupart des analystes et surtout la Réserve fédérale restent confiants que ce recul des prix aux États-Unis sera temporaire. Janet Yellen, la présidente de la Banque centrale américaine, a dit qu'elle s'attendait à ce que l'inflation décline encore à court terme avant de se relever graduellement à moyen terme vers l'objectif de 2%.
Merci Jean-Roger. L'heure de passer aux nouvelles sportives avec Nicolas Pinoux. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Cannes des moins de 17 ans au Niger, on connaît l'affiche de la finale.
Dans le duel de l'Afrique de l'Ouest, les Aiglonais maliens ont remporté le match contre le Sili National de Guinée 2-1. Seydou Koïta avait ouvert le score pour les Maliens en première mi-temps. À la reprise, Aboubakar Touré avait égalisé pour la Guinée. Mais dans la foulée, Ali Malé redonne l'avantage aux Aiglonais. Le Mali affrontera en finale l'Afrique du Sud. Je vous rappelle que les Sud-Africains l'avaient emporté 1-0 en demi-finale contre le Nigeria.
On jouait hier soir en Ligue Europa.
À Istanbul, grosse surprise, le Beşiktaş a battu Liverpool 1-0, un partout sur les deux matchs. Il a donc fallu aller au tir au but et ce sont les Turcs de Beşiktaş qui se sont montrés les plus adroits. Victoire, 5 tirs au but à 4. L'Inter de Milan est venu à bout d'un Celtic de Glasgow réduit à 10, 1-0 grâce à une lucarne de son homme fort, le Colombien Freddy Guarin. Et puis le Dynamo de Kiev a battu Guingamp, 3-1. Le FC Séville se qualifie aux dépens de Mönchengladbach, 3-2. Tottenham éliminé par la Fiorentina, défaite 2-0. À Salzbourg, Villarreal, le club espagnol qui domine, le club autrichien 3-1. À Varsovie, l'Ajax d'Amsterdam qui s'impose devant le Legia Varsovie 3-0. Un dernier résultat à Saint-Pétersbourg, le Zénith qui bat le PSV Eindhoven 3-0. Je vous rappelle que le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu tout à l'heure à Lyon, au siège de l'UEFA.
Frayeur en Allemagne.
Oui, le stade de football du Borussia Dortmund a été évacué hier après la découverte d'une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale au cours de travaux de rénovation. La bombe de 250 kg d'origine britannique a été découverte dans la zone VIP du Westfalenstadion. L'engin a été détruit dans l'après-midi.
Du tennis avec le tournoi de Dubaï.
Le Tchèque Tomáš Berdych s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'Ukrainien Sergei Stakhovski 6-3, 4-6, 6-2. Il affrontera Novak Djokovic, tête de série numéro 1, qui n'a eu aucun mal à se qualifier en écartant en 2-7 le Turc Marcel Ilan, 6-1, 6-1. Quant au jeune Croate Borna Koric, 18 ans, il a créé la surprise de l'année en éliminant Andy Murray, numéro 3 mondial. Koric, 84e au classement ATP, a battu l'Écossais en 2-7 expéditif, 6-1, 6-3. De son côté, Richard Gasquet a abandonné en quart de finale, ce qui permet au Suisse Roger Federer de se qualifier pour les demi. Enfin Jacques, on termine avec vous la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Nicolas, deux rencontres au programme cette nuit. LeBron James a inscrit 42 points, un sommet personnel cette saison, pour mener les Cavaliers de Cleveland vers un gain de 110-99 sur les Warriors de Golden State. L'autre match se poursuit en ce moment même. Oklahoma City est aux prises avec Phoenix. Le score pour l'heure, Oklahoma City 84, Phoenix 93. Donc voilà quelques petits points pour Phoenix, mais vous savez, il reste 9 minutes à jouer, donc tout peut changer.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro, Le Monde aujourd'hui continue. Et c'est l'heure d'entamer la tranche magazine. Cap d'emblée sur la Côte d'Ivoire, où la candidature de l'actuel chef de l'État au scrutin présidentiel d'octobre prochain ne fait pas l'unanimité au sein du PDCI-RDA qui est au pouvoir. Quatre contestataires refusent de se rallier à ce qui est désormais connu comme l'appel de Daoukro. C'est là qu'Henri Konan Abédié, le président du parti, avait demandé à ses troupes de soutenir Alassane Ouattara. Un jour du congrès extraordinaire du PDCI-RDA, censé approuver le choix Ouattara, les voix discordantes n'hésitent pas à se faire entendre, comme nous le dit ce matin notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri.
Samedi 28 février, l'on aura une idée de l'aboutissement de l'appel de Daoukro lancé par le président Henri Konan Abédié, président du PDCI-RDA, dans l'optique de demander aux militants de son parti de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara au présidentiel 2015 et à ses cadres de s'abstenir pour cette consultation électorale qui s'annonce. Quatre personnalités du PDCI-RDA qui ont déposé leur candidature à la candidature se sont opposées à cette requête. Pour Jérôme Cabran-Brou, l'appel de Daoukro est perçu comme un ordre.
L'appel de Daoukro ne nous agrée pas comme il n'agrée pas la majorité des militants de notre parti. C'est un appel qui ressemble quelque part à un diktat parce que émanant certainement de quelqu'un qui un jour est tombé dans les pratiques autocratiques.
Et si Amara, prétendant, estime que les données ont été modifiées.
Le président a fait une déclaration pour dire que non, que contrairement à ce qui a été décidé par le Congrès, que lui, en tant qu'individu, allait supporter le candidat de notre parti. Je crois que tout parti politique a pour vocation d'assumer de jouer le plus grand rôle. Donc, en fin de compte, nous avons dit non. Et je crois que, sincèrement, 90% des militants du PDCI sont sur cette ligne.
Le candidat Kwadio Konan-Bertin Dikakabé affirme que son parti n'est plus autonome.
Notre demande de candidature adressée à la direction du PDCI-RDA par nous quatre se retrouve sur les tables du RDR. Aujourd'hui, voilà encore un appel qui va achever définitivement le PDCI-RDA. Et je constate que tout ça tourne autour d'un seul individu, Alassane Draman Ouattara. C'est avec son nom qu'on détruit l'œuvre du fouet.
Quant à Charles Konambani, il s'interroge.
Pourquoi le PDCI n'a-t-il pas le droit en 2015 de désigner son candidat au premier tour, conformément d'ailleurs à son congrès ordinaire? Nous ne serons pas des candidats indépendants. Nous serons des candidats PDCI-RDA.
Une autre conférence a été animée ce jour par le porte-parole du plus vieux parti du pays pour faire les derniers réglages de l'organisation de ce congrès. Étienne Kwasi Agumani a saisi cette opportunité pour souligner le sens de l'appel de Daoukro.
L'appel de Daoukro, c'est pour sauvegarder la paix. Si quelqu'un veut porter l'habit PDCI pour faire sa publicité, tant mieux. Le vrai candidat du PDCI, ce sera Alassane Ouattara. Et le PDCI va faire cette démonstration-là à l'occasion des élections.
Germaine Dri, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Les Camerounais se mobilisent contre Boko Haram. Une grande marche est prévue demain, samedi 28 février, dans les rues de Yaoundé. Il s'agira surtout d'une manifestation de soutien aux troupes du pays, l'une des armées aux prises avec le groupe djihadiste nigérian. Depuis la capitale camerounaise, la correspondance de Julie Loubou.
Dire non aux exactions commises par Boko Haram et encourager les forces de défense qui se battent contre les éléments de la secte, c'est le but des multiples marches qui sont organisées à travers le Cameroun. Une initiative que certains acteurs politiques apprécient positivement. Joseph Mbédé.
Moi, je trouve que c'est important de marcher parce que vous savez, au front, il y a deux types de motivation. Vous savez, les gars qui sont face à nous, c'est des gars qui prennent parfois des stupéfiants, qui prennent des trucs pour se droguer. Alors, nos militaires ont besoin de savoir qu'il y a une mobilisation pour pouvoir faire face à des personnes comme ça. Donc c'est une façon de droguer aussi nos militaires.
Face aux multiples incursions perpétrées en territoire camerounais par la secte Boko Haram, avec au bout des pertes, des dégâts importants, les initiateurs des marches appellent à une mobilisation générale. Éric Benjamin Lamère, journaliste.
Les chiffres officiels indiquent que cette année, nous avons 132 000 tonnes de déficit céréalier. Ça veut dire que les risques de famine sont réels. Il y a 150 000 déplacés qui ont fui leur village, les Camerounais qui ont fui leur village, ils font des actions pour se réfugier plus à l'intérieur. Il y a environ 200 000 réfugiés nigériens, dont 32 000 cantonnés dans le camp de réfugiés de Minawao, dans le Mayo Tanaga. Il y a 170 écoles qui sont fermées. Ça veut dire qu'il y a au moins 50 000 jeunes Camerounais qui ne vont pas à l'école depuis le début de l'année scolaire. Voilà un peu les chiffres de la guerre. Et si cette guerre se poursuit avec l'effort financier que cela impose au pouvoir public, ce sont des pans entiers de notre développement qui seront hypothéqués. C'est pour ça qu'il faut appeler à une mobilisation pour que cet effort de guerre puisse amener à une victoire rapide sur cette nébuleuse terroriste afin qu'on revienne à des préoccupations beaucoup plus valorisantes pour notre pays.
Parmi les organisateurs de ces mouvements de mobilisation figurent en bonne place les hommes et femmes des médias. Gibaï Gatama, journaliste.
Si nous vivons dans un pays qui est déstructuré, nous ne pouvons même plus exercer notre travail. Il y a des zones à l'extrême nord où le journaliste ne peut plus s'y rendre que protégé par l'armée. Donc il est du ressort du journaliste de travailler à ce qu'il y ait la paix, la tranquillité, la sainteté, pour que lui-même il puisse mieux exercer son métier. Le journaliste est d'abord un citoyen. Est-ce que vous ne payez pas votre fiche d'impôt parce que vous êtes journaliste? Est-ce que si on vous convoque dans un commissariat, vous n'y allez pas parce que vous êtes journaliste? Donc nous sommes touchés au même titre que tout le monde.
Depuis 8 mois que le Cameroun est officiellement en guerre contre Boko Haram, c'est la première fois que le pays vit une telle mobilisation. Yaoundé, Jules Lobo pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Washington suit de près la situation au Nigeria, particulièrement en vue des élections prévues le mois prochain. Pour les départements d'État américains, ces scrutins constituent un test pour le continent africain, d'autant qu'une dizaine d'autres pays africains doivent également organiser des élections dans les deux prochaines années. Michel Joseph.
La secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, dit avoir reçu des assurances des hauts responsables nigérians sur la tenue des élections le 28 mars prochain. Le vote avait été prévu initialement ce mois-ci, mais a été reporté pour des raisons de sécurité, dit l'armée nigériane, en proie aux terroristes de Boko Haram dans le nord du pays. Pour Madame Thomas Greenfield, le monde entier suit ce qui se passe au Nigeria et on espère que les élections seront libres et justes, transparentes, pacifiques et reflèteront la volonté du peuple. Notant que les États-Unis travaillent avec des pays comme le Burundi et l'Éthiopie, où sont prévues des élections en 2015 et 2016, la diplomate américaine a exprimé des inquiétudes quant à certaines tendances récentes en Afrique, c'est-à-dire les tentatives de modifier les constitutions pour échapper à la limitation des mandats. On soupçonne le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo de penser à un tel stratagème.
Notre politique a été généralement d'appuyer la limitation des mandats et de soutenir le changement que les Africains eux-mêmes disent vouloir. Donc, nos pressions ne s'exercent pas seulement sur le président Kabila pour qu'il respecte la constitution de son pays. Nous le faisons aussi avec d'autres pays africains parce que c'est la volonté exprimée par les peuples africains.
Pour revenir au Nigeria, un autre haut fonctionnaire du département d'État, Douglas Franz, a déploré que le gouvernement nigérian n'ait pas accordé de visa à des journalistes étrangers qui veulent couvrir l'élection.
Je pense que c'est très regrettable et qu'il incombe maintenant plus que jamais aux journalistes nigérians d'aller sur le terrain pour dire ce qui se passe et le dire de façon objective et honnête pour permettre aux deux parties en présence de s'exprimer librement et éviter qu'elles ne racontent impunément des mensonges et procèdent à des camouflages.
La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Télé Mwangaza à Lubumbashi, province du Katanga.
Une équipe de haut niveau mandatée par l'ONU pour faire la lumière sur une manifestation violente à Gao dans le nord du Mali publiera son rapport le mois prochain. L'enquête concerne précisément les événements qui se sont produits le 27 janvier dernier près d'un camp de la MINUSMA, la mission onusienne dans le pays, et qui ont entraîné des morts et de nombreux blessés. À Bamako, nous retrouvons notre correspondant Kassim Traoré.
Arrivé le 19 février dernier au Mali, les trois enquêteurs ont rencontré les autorités maliennes avant de se rendre à Gao pour l'ultime phase. Bakré Wali Ndiaye, avocat et chef de l'équipe d'enquête des Nations Unies.
Comme je l'ai dit, c'était quand même une manifestation violente qui s'est déroulée pendant un temps assez long. Et je pense que même les personnes que nous avons vues, il n'y a personne qui a dit que c'était une manifestation pacifique. Personne ne nous a dit ça. C'est clair. La collaboration a été totale. Je pense avec une grande franchise. Et nous avons vu aussi les victimes.
À Gao, l'équipe s'est rendu à l'hôpital qui a accueilli les victimes. Les trois enquêteurs ont pu s'entretenir avec les manifestants blessés durant ces événements.
Nous sommes ici pour dire la vérité, pas pour masquer quoi que ce soit. Nous dirons ce que nous avons vu et nous le dirons par rapport aux normes que nous connaissons. Et je pense que nous avons tous une assez longue expérience de comment ces normes sont mises en application dans un théâtre d'opération pour pouvoir dire qui a fait quoi, qui l'a fait de façon raisonnable ou pas raisonnable et comment ces personnes ont été victimes.
L'enquête des Nations Unies ne fera ombrage à aucune autre, car il y a eu des plaintes de la part des victimes et de leurs parents. C'est pourquoi une autre enquête est ouverte au niveau national.
L'enquête préliminaire a commencé. Ça, je peux le dire, c'est certain. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, notre enquête est une enquête indépendante. Ce n'est pas une enquête interne. Parce qu'une enquête interne, c'est faite par des fonctionnaires qui dépendent du secrétaire général. Le temps lui-même montre l'intention de faire quelque chose de clair, de sérieux, d'objectif qui pourra être vu par tout le monde. Et je pense que c'est important. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Mais cela n'empêche pas les enquêtes internes.
Les enquêteurs indépendants ont donné l'assurance qu'il y aura des sanctions, car leur rapport ne dormira pas dans un tiroir.
On nous a dit qu'est-ce qu'il faut recommander pour éviter que des choses pareilles se reproduisent. Parce que c'est clair que s'il y a des fautes, quels que soient les auteurs de ces fautes, elles doivent en répondre. Je pense que c'est un principe. Parce que je pense qu'il est important de battre le fer quand il est chaud. Parce que vous savez, quand une enquête traîne pendant des années, en général, l'idée même que ça peut être sérieux commence à se perdre. Je pense qu'il y a une grande attente, nous l'avons senti.
L'équipe d'enquête se rendra maintenant à New York pour présenter son rapport préliminaire au secrétaire général des Nations Unies et son rapport final d'ici la fin mars 2015. Pour rappel, cette équipe est composée de trois experts indépendants. Il s'agit de Bakré Wali Ndiaye du Sénégal, Ralph Jenkins du Royaume-Uni et Marc Crocker des États-Unis. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Nous vous en parlions un peu plus tôt, le sort de centaines de chrétiens assyriens enlevés dans le nord de la Syrie ces trois derniers jours suscite de profondes inquiétudes. Le compte-rendu de Camille Gros-Didier.
Des djihadistes de l'État islamique ont enlevé au moins 220 chrétiens assyriens dans les villages du nord-est de la Syrie, a déclaré jeudi Rami Abdurrahman, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne. Erika Hunter, experte en christianisme oriental à l'Université de Londres, est pessimiste quant au sort des personnes enlevées. Je suis sûr qu'ils vont probablement tuer les jeunes gens, ils ont tendance à le faire. En particulier si ces jeunes ont été impliqués dans des milices et s'il s'agissait de chrétiens rejoignant des Kurdes. Les femmes subiront le même sort que ce qu'on avait vu dans l'Empire romain. Elles seront réduites en esclavage sexuel, déclare Madame Hunter. Elle explique que certains des chrétiens enlevés s'étaient alliés aux milices kurdes qui luttent contre les djihadistes de l'État islamique. Avant le début de la guerre en Syrie, les chrétiens constituaient environ 10% de la population syrienne. Les Assyriens, dont le nombre est estimé à 40 000, se considèrent comme les dernières populations autochtones de la Syrie et de l'Irak. Selon le professeur Madawi al-Rachid de la London School of Economics, ils ont enduré d'innombrables persécutions. Plus d'un demi-million d'Assyriens ont été tués pendant le génocide arménien entre 1914 et 1918 dans des territoires intégrés aujourd'hui à la Turquie. En Irak, ils ont été exposés à de nombreux conflits sectaires depuis le renversement de Saddam Hussein en 2003.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. John Ellison assurait la partie technique. C'était Jacques Aristide au micro. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Je vous souhaite une très bonne journée de vendredi, de même qu'un merveilleux week-end sur la VOA. À très bientôt. Take care.